Donc, je vais passer la parole à Mohamed Tozzi, qui est donc professeur de sciences politiques à l'université Hassan II de Casablanca, et qui nous dira ce que peut apporter justement, ce que peuvent apporter les pays du Sud, ou en tout cas en partie pour le Maghreb en tout cas. Mohamed, je t'en prie.
Je ne crois pas que je sois leur porte-parole, mais disons, ma présence ici, je suis justifié aussi par le fait qu'on est dans le cadre du réseau un peu Ramsès et dans le cadre des activités universitaires, on essaye de faire vivre cette catégorie un peu problématique, qui est la catégorie méditerranée. Je commencerai par dire on ne peut pas trop discuter de la réalité de son existence à travers un certain nombre d'activités ou de projets politiques ou même de politique tout court. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est très difficile à faire vivre dans la réalité. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un master des affaires méditerranéennes qui coûte assez cher pour beaucoup de pays méditerranéens, qui regroupe une vingtaine d'étudiants, et les organisateurs du master ont eu des difficultés à faire bouger un professeur égyptien pour qu'il vienne enseigner à Barcelone à ses étudiants. Parce que, là aussi, cette catégorie se heurte beaucoup à une autre catégorie aussi invisible à partir du Sud, j'allais dire invisible ou incompréhensible à partir du Sud, qui est la catégorie Europe. On voit beaucoup des pays européens, et là, comme cela dit, il y a très peu l'Europe elle-même. Là, le programme est porté par un collectif européen, mais celui qui délivrait le visa pour l'Égypte, c'était le consulat d'Espagne, lui-même engagé fortement dans le processus méditerranéen. Mais le consulat n'a pas la même politique que les affaires étrangères, et ça c'est un autre problème. Donc là, je pense que pour parler de la... Il y a trois problèmes qui se posent fortement à cette catégorie méditerranéenne, quoique elle vit, on y croit, et on est là parce qu'on y croit. D'abord, comme j'ai dit, cette invisibilité de la catégorie Europe et cette difficulté à la concevoir à partir du Sud en tant que politique, même si on la confronte en tant que programme, un ensemble programme. Je vais revenir sur le programme européen. Elle est d'autant plus invisible qu'elle vit mal ou elle gère mal, je pense, l'épreuve turque. Parce que là, l'épreuve turque par rapport à l'Europe est quelque chose qui est très suivi. Ou du moins à partir du Maroc que je connais, mais à partir d'autres pays, y compris en Turquie. On y a été et c'est quelque chose qui est assez suivi. La troisième chose peut-être qui rend difficile un peu, qui rend inaudible un peu la Méditerranée avec toute la richesse qu'elle peut donner comme ressources, j'allais dire historiques, identitaires, culturelles, ressources que beaucoup plus que ce sont plus les tours opérateurs qui utilisent que les politiques. La question de la relation entre la politique européenne, justement, et la lisibilité de la politique européenne dans le cadre méditerranéen. Et là aussi, quand elle se déploie en tant que programme, bien sûr, avec toutes les incertitudes des programmes, même s'ils portent des dénominations très fortes, très ronronnantes, soutien aux démocraties, à la société civile, etc., qui sont importants. Leur impact, vu la difficulté de les définir, et je vais y revenir plus tard, leur impact ou l'impact des conditionnalités qu'elles comportent, qui est tout le temps neutralisé par les politiques bilatérales, reste très très faible. Et elle n'est relativement, j'allais dire, forte que par rapport, quand il reprofile à l'horizon, j'allais dire, un agenda précis. Et là, quoi qu'on en dise, le cas turc est le plus intéressant, c'est-à-dire de la relation forte entre les réformes internes de la Turquie et l'agenda qui lui est proposé, même si la Turquie est pressée de faire mieux et vite. Et là aussi, il a des opinions publiques à gérer, une histoire à gérer. Donc déjà, dans un environnement simple, disons simplifié, on voit bien que, le, que, que cette catégorie a des difficultés à vivre. Mais là, on n'est pas dans un environnement qui est simple. On est dans un environnement qui, j'allais dire, totalement dévasté. Et dévasté par, j'allais dire, ce qui s'est passé depuis 5 ou 6 ans, à savoir la guerre d'Irak et l'échec, et ça on peut le dire, l'échec des Américains en Irak. Bon, on ne peut pas s'attendre à autre chose, mais disons, il y a un échec qui a produit des conséquences. Pas uniquement, on n'est là pas pour constater l'échec et dire que les Américains... Non, je pense qu'il y a l'échec des Américains en Irak a complètement bouleversé la donne actuellement. Il y a énormément de problèmes à gérer après ça. Au-delà de l'affaiblissement peut-être des États-Unis, il y a des choses à gérer au niveau... Et là, on le voit de façon très forte au niveau du Sud. Je vais, en 5 points, disons, de façon synthétique, parler des conséquences par rapport à cette... Bon, la première chose, c'est que, disons, la politique américaine au Moyen-Orient, et puis, et l'échec de cette politique, a accéléré de façon très rapide l'affaiblissement des acteurs régionaux, essentiellement. Donc, l'Arabie avait une politique régionale qu'elle pouvait mettre en place, l'Égypte avait une politique, mais quel est maintenant le crédit de ces pays par rapport pour mener ou pouvoir même fonctionner comme interlocuteur de quelque chose? Et le Liban, on est la preuve très éclatante. Et c'est quelque chose qui est très dangereux, cet affaiblissement des acteurs régionaux. Deuxième chose, c'est l'affaiblissement d'un certain nombre de régimes qui, pour des raisons à la fois de conjoncture interne ou par rapport à l'environnement international, n'ont plus aucun rôle au niveau international. Moi, je pense là essentiellement à l'Algérie et au Maroc. L'Algérie, malgré toute la virtuosité d'un Bouteflika, pour des raisons à la fois internes, à la fois de santé, mais aussi de géopolitique interne, sa capacité à jouer le rôle qu'il aurait souhaité reste très très faible et très limitée. La même chose pour le Maroc, la disparition de Hassan II et l'arrivée d'un nouveau roi, qui a d'autres préoccupations, d'autres compétences, fait que le Maroc a totalement abandonné le rôle d'un acteur international au niveau régional, ou même son rôle d'acteur au niveau du Moyen-Orient, qui était même institutionnalisé quelque peu à travers le comité Al-Quds. Et donc, quelque chose qui pouvait jouer parfois le rôle d'une petite caisse de résonance ou d'antichambre de négociation pour des interlocuteurs qui n'arrivaient pas à se rencontrer. Ce rôle a dit. Troisième chose qu'il pense qui est importante, c'est l'affaiblissement des acteurs de l'islam politique. C'est pas la crise de l'islam politique que je dis l'affaiblissement des acteurs de l'islam politique. Et je pense que ce qui s'est passé en Irak a créé un champ de bataille, nouveau champ de bataille, beaucoup plus important que l'Afghanistan, parce qu'il est un champ de bataille où il y a des victoires, de vraies victoires. Ce champ de bataille a complètement marginalisé l'islam politique au niveau des États. Et créer une sorte au Maroc on vient de constater par exemple qu'un quartier, pratiquement tous les jeunes d'un quartier sont partis en Irak pour faire la guerre, pas parce que les processus ne sont pas des processus, j'allais dire, d'endoctrinement idéologique fort. On peut casser la gueule à l'américain, tout simplement, et le seul lieu où on peut casser la gueule à l'américain, c'est en Irak maintenant. Donc les gens, ils ont cette conviction et par rapport à ça, les organisations au niveau des pays sont affaiblies parce qu'ils sont dans des processus d'intégration politique, ils n'ont plus cette capacité à mobiliser sur ce dossier, parce qu'ils sont sommés de se taire. Et en même temps affaibli parce que les États eux-mêmes sont en train de développer des moutures très restrictives d'un islam national par pays, avec des conditions, avec une politique publique nationale, avec des restrictions. Et du coup, ça a donné lieu à un affranchissement de ce qu'on appelle de l'islam djihadiste, qui est devenu la référence par rapport aussi bien des jeunes de ces pays que au niveau de l'efficacité internationale. Quatrième point, qui est, je pense, c'est Ce qui s'est passé en Irak, bon, l'option, mais ce qui s'est passé dans d'autres pays, où l'échec de la politique du Moyen-Orient, ou du Nouveau Monde, est aussi, renvoie aussi à l'échec, et là c'est aussi bien l'Europe que les États-Unis, à l'échec des recettes de démocratisation. Là on ne sait pas quoi. C'est quoi démocratiser un pays? Est-ce qu'il faut soutenir la société civile? Est-ce qu'il faut soutenir les partis politiques? Avoir une ingénierie constitutionnaliste pour faire de nouvelles constitutions? Là personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne peut, y compris, même si les politologues se sont mis en experts dans ce cas, personne ne sait, personne ne peut donner un peu le timing, les délais, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant, d'autant plus là aussi que le modèle démocratique lui-même étant, comme l'a dit Giovanni tout à l'heure, est en repli, et que les capacités, j'allais dire, autochtones de production de modèles alternatifs sont neutralisées actuellement. Et donc là on est dans des systèmes politiques, c'est le dernier point, qui sont de plus en plus à la merci de leurs opinions publiques. Et les opinions publiques sont encadrées fortement par les médias, mais aussi par la réalité historique qui se passe ailleurs. Donc même si les héros changent de figure, et actuellement le cheikh de Hezbollah est le héros intéressant, avec un reprofilage beaucoup plus, moins guerrier mais plus politique, mais en même temps associant le guerrier et le politique, mais ces héros non reçus officiellement font un peu créer le modèle alternatif en dehors des capacités des internes de ces sociétés à produire elles-mêmes ces alternatives. Donc pour conclure, donc rapidement, même si parler de la Méditerranée est uniquement une, comme toujours, une sorte de parti pris politique, ces chances au-delà de la ressource, j'allais dire culturelle et historique, je pense que ces chances au niveau politique restent très liées au volontarisme des États, et ce volontarisme des États, on ne peut que le constater actuellement, est au plus bas niveau. Merci.
Merci beaucoup, Mohamed Tosi.